Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Salut, bonsoir, merci d'avoir cliqué sur télécharger, c'est Focus Store, la troisième saison déjà, et le deuxième numéro. Je vous rappelle le principe, hein, sait-on jamais que vous ne fassiez pas encore partie de nos fidèles quatre objets culturels qui font la une des journaux et des réseaux sociaux, et une poignée de journalistes du magazine Focus Vive qui en discutent, chacun depuis sa spécialité. Et la spécialité d'Isaline Parisis, outre réveiller nos imaginaires ankylosés avec sa délicatesse de fée clochette, c'est la littérature. Bonjour Isaline.
Bonjour.
J'ai sué hein, sur ce lancement, j'aimerais bien qu'il faut le saluer. La spécialité de Nicolas Clément, outre la beauté, c'est le cinéma et la BD, et la spécialité de Guy Verstraeten, outre les blagues de Toto, c'est un peu de tout.
Nous attaquons toute la ceinture pour commencer, voilà.
Et c'est ça qui est bien. Le programme du jour est le suivant. Le film Mommy de Xavier Dolan, le roman Price de Steve Tezich, la série Transparent et l'album surprise de Thom Yorke. Allons-y, venez, c'est par là.
Parce que la vie avec Steve, c'est comme un 25 cents, hein? C'est jamais si tu vas tomber pile. Ou ben donc si tu vas tomber en pleine face. Steve, c'est un violon. C'est mon petit gars, il a bien du charisme, mais... Quand tu pètes une fuse, t'en souviens de là, ben ça jouera. Je sais qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur big fucking time. C'est juste une question de temps.
Bonne chance, madame.
Que dire de Mommy qui n'a pas encore été dit? Le film et son Québécois de réalisateur trustent à peu près toutes les couvertures des magazines depuis 2-3 semaines. Ils avaient déjà largement occupé le terrain lors du dernier festival de Cannes où Mommy avait reçu le prix du jury, à partager avec le dernier Godard, ce qui avait déçu Dolan qui rêve en grand. À 25 ans, il propose un film qui semble mettre tout le monde d'accord, à part peut-être quelques grincheux, on va voir si c'est le cas aussi chez nous. C'est un film en format carré, absolument suffocant, où le téléspectateur n'est jamais autorisé à prendre l'air en regardant ailleurs. Enfin si, deux fois, Dolan ouvre le cadre et ça fait beaucoup de bien. C'est un film où on se castagne, où on gueule, où on s'aime aussi beaucoup. Une mère qui fait ce qu'elle peut, Diane, c'est Anne Dorval. Un fils qui fait ce qu'il veut, Steve, c'est Antoine-Olivier Pilon, vu chez nous dans un clip d'Indochine. Et une voisine qui souffre d'aphasie, Kayla, c'est Suzanne Clément. Personnellement, c'est pas mon Dolan préféré, je le trouve un petit peu lourd à digérer, un petit peu too much, très harcelant. C'est probablement voulu, mais c'est quand même un peu trop quand on est dans certains états. Je reste quand même très très admirative de son travail. C'est quand même pour moi l'Almodovar francophone. J'aime beaucoup son esthétique cuir, ses personnages à la marge. Mais Nicolas, j'ai comme l'impression que toi, ça doit pas tout à fait être ton truc.
C'est bizarre ces a priori. Hein. Non, moi j'aime bien Dolan.
C'est vrai.
Ouais, j'aime bien. Je trouve que le. Enfin, il a parfois un peu les défauts de ses qualités, mais. Donc c'est quelqu'un qui est capable de fulgurance, c'est un peu un chien fou, l'enfant rebelle du cinéma aujourd'hui. Il y a un peu une contrepartie à ça, enfin, il y a toujours un peu un prix à payer dans ses films, donc le côté un peu excessif, le côté un peu on met les sentiments sur la table, voire on fout un peu les sentiments à poil, hein, c'est un peu le principe. Peut des fois avoir des choses un peu crispantes. Il essaye beaucoup de choses, des fois il y a des ratés, et je trouve qu'il alterne toujours un peu les fulgurances et les ratés. Dans Les Amours Imaginaires, qui pour moi reste son meilleur film, on était plutôt dans la fulgurance. Dans Lawrence Anyways, je trouve, c'était plutôt raté, même si le film reste intéressant. Et ici, je trouve qu'on est aussi de nouveau plutôt du côté de la fulgurance avec ce film-ci.
Tu as vu Tom à la ferme ?
Je n'ai pas vu Thomas Laferme, j'avais essayé d'éluder. Tu as remarqué que je ne l'ai pas cité, mais merci. Donc, publiquement, j'annonce que je n'ai pas vu Thomas Laferme.
Alors, tu ne peux pas juger, je suis désolée. Voilà. J'invalide tout ton avis.
Moi, ce qui m'impressionne dans le film ici, c'est, chez Dolan, c'est le sens du dialogue, le sens de l'image très fort, qui des fois vire un peu au clip, hein, puisqu'il aime aussi beaucoup la musique. Donc, il y a des moments clipesques qui sont assumés dans le film, avec des musiques qui sont parfois un peu discutables, mais...
tu penses à Céline Dion, par exemple.
Par exemple, mais bon, voilà, oui, ça fait partie un peu des personnages aussi. Tout à fait, oui. Je pense que le moment sur... le moment clip un peu sur la chanson d'Oasis, Wonderwall, est vraiment magnifique, quoi.
Je trouve ça magnifique, moi, ça, vraiment, je trouve d'un bateau, mais...
Mais enfin...
Mais non, vraiment.
Mais Guy...
Mais voilà, j'ai la honte de le dire, alors continue, hein.
Mais je continue, mais je te laisse la parole après.
Fais tes arguments, plus que d'autres arguments.
Et donc, ce qui est toujours fort chez lui, c'est que c'est un cinéma de personnages, en fait, je trouve. À chaque fois, ses films, c'est un peu des portraits. Ici, de beaux portraits de femmes, et puis un portrait d'ado perturbé. On peut lui reprocher une certaine forme d'impudeur, comme ça, mais ça fait partie aussi de son cinéma, et c'est ce qui fait aussi, je pense, que des fois, il atteint des fulgurances, c'est-à-dire qu'on est un peu dans une sorte de montagne russe émotionnelle en permanence.
Et le format carré, toi, il t'a semblé pertinent par rapport à ça?
Le format carré, ça fait partie... Moi, ce que j'aime chez Dolan, c'est qu'il se passe toujours quelque chose dans ses films. Il y a toujours plein d'idées, il y a même parfois un trop plein d'idées. C'est peut-être pas son... sa meilleure idée, je pense qu'en fait le format, le cadre du film renvoie aux perspectives que les personnages ont, c'est-à-dire des perspectives très enfermées en début de film, et puis quand il, tu l'as dit, quand il étire le cadre deux ou trois fois pendant le film, bah, c'est parce que les personnages vont mieux et que leurs perspectives s'élargissent. Je trouve ça intéressant, c'est pas non plus, je pense pas que c'est l'idée du siècle, mais c'est pas non plus un bête gimmick ou un bête gadget, quoi. Ça colle vraiment avec le propos, quoi. Voilà. Une dernière chose, je trouve que la vulgarité des personnages a tendance parfois à contaminer un peu le film lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les personnages ont un côté très vulgaire. C'est difficile après, par moment, de ne pas faire certaines scènes qui sont elles-mêmes un peu vulgaires.
Et tu penses à quoi? Au karaoké ou à ce
genre de chose? Côté un peu hystérique, gesticulatoire, au côté pas du tout pudique de ces personnages, ce qui fait que forcément on n'est pas non plus dans un cinéma pudique.
Ceci dit, l'Amérique du Nord n'est pas un continent très très pudique.
D'accord. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment un très chouette film. C'est un vrai film de cinéma, il y a des idées tout le temps, il y a des idées de fond, il y a des idées de forme, et il y a une vraie proposition, quoi. Voilà. Même si a priori le sujet n'était pas vraiment le sujet qui m'emballait le plus.
Et alors, Guy et Isaline se renvoient la balle à qui veut prendre la parole.
Je trouve qu'une voix féminine après la belle voix masculine de...
Vas-y.
Non, parce que tu disais, c'est jamais complètement le sujet ou le genre de film. Moi, c'est pareil, c'est a priori avec Dolan, j'ai un peu chaque fois la même chose. C'est pas complètement mon genre de film, et puis à la fois, il y a quelque chose de terriblement accrochant, je trouve, dans ce qu'il fait. C'est presque de l'ordre d'un crash ou d'une collision. Alors, je pense à cette scène d'ouverture, justement, du film, avec cet accident de bagnole, et je pense qu'il y a quelque chose... Moi, j'entre dans les films de Dolan un peu comme ça. Alors, toujours avec ces thèmes un peu brûlants, forcément, la question du genre, d'identité sexuelle, des familles dysfonctionnelles et des personnages fort borderline, pour le coup, même carrément au-delà. Ça, c'est pour le fond. Et sur la forme, c'est vrai que voilà, Dolan, c'est la fougue, c'est la nervosité, c'est la pulsion. Et forcément, ça fait un cocktail assez détonnant. Et je trouve qu'après film après film, il va remuer quand même des choses en nous, insoupçonnées, pas si évident. Alors, évidemment, on va en parler, mais il y a des rôles de femmes assez extraordinaires dans ce film, des rôles très très forts, très très solaires. Il y a évidemment la mère comme ça, qui a quelque chose, tu disais, d'Almodovar, oui, de la beauté d'un trans chez Almodovar, presque. Je pense à cette
d'ailleurs
scène...
c'est un peu une icône gay, hein, Anne Dorval.
Je pense à cette scène du Bic, par exemple, où elle doit signer un papier qui la décharge, enfin qui la responsabilise
début,
de son fils, et elle sort un Bic comme ça avec 1000 amulettes de... En fait, c'est vraiment cette bonne femme qui prend sa vie partout où elle va avec elle. Je trouve que c'est une scène assez exemplaire pour ça. Alors évidemment, les liens mère-fils et une relation triangulaire avec, pour le coup, une mère qui se dédouble ici, puisque voilà, la voisine de cette famille va avoir un rôle très très important au final dans l'évolution du film. Moi, j'avais envie peut-être de revenir sur le rythme. Je trouve que c'est vraiment un film, je crois, qui dure 2h15, quelque chose comme ça, 2h10. Et la tension psychologique, elle est vraiment latente tout au long. Alors, on ne sait jamais d'où ça va venir. C'est-à-dire, si, au contraire, on sait exactement toujours d'où elle va venir. On sait toujours qu'il va se passer quelque chose et d'où ça va venir. Ça va forcément venir de Steve. Toute la tension du film est incarnée par ce personnage principal, un personnage bipolaire, qui est hautement imprévisible et donc incontrôlable. Mais par contre, on ne sait jamais exactement ce qui va arriver. On sait que quelque chose va arriver, mais on ne sait pas quoi et sous quelle forme.
C'est très angoissant.
Ça fait un film, effectivement, qui est très, très constamment habité par une bascule possible, un sentiment de bascule. Ça crée, je trouve, une expérience très confrontante, très addictive aussi en tant que spectateur. Et par contre, pour l'outrance, pour l'hystérie qui est là, c'est évident dans le film, je trouve que le film est très cohérent, au fait, parce qu'on a l'impression que c'est le personnage de Steve qui guide le film, que ces images, ces scènes sont vraiment chevillées aux montées comme ça et aux descentes très très violentes de ce personnage-là. Et il y a un côté, je trouve, un vrai côté duel aussi dans le film, avec un côté très excessif, presque répulsif, et puis en même temps un côté très scotchant, très, très attachant, qui est un peu à l'image du cinéma de Dolan, finalement. Et je pense que c'est aussi un film bipolaire, en soi, c'est-à-dire même sur la forme, parce qu'il joue vraiment sur deux tableaux, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un film comme ça, très arraché, très écorché, presque sans épiderme. Et puis il y a des moments où justement cet épiderme, ce travail de surface revient, je trouve, de manière très très forte. Et ça, c'est vraiment tout le travail formel de Dolan, avec, comme tu l'as dit, Nico, un côté clippé, certaines scènes comme ça de détachement poétique qui sont très très belles. Je pense à ce moment où Steve prend un bain de glaçons, mm-hmm. comme ça, ou ce moment où juste il filme la lumière et qui peut paraître un peu cliché, mais c'est comme ça des moments, les ralentis quand il est sur son skate, on en a parlé
C'est des fois très court, par exemple, quand il est dans la baignoire avec les glaçons, c'est quasi la plus belle image du film, et ça dure peut-être deux secondes.
Ouais, exactement, mais c'est vraiment des purs moments de vie, comme ça, de calme et de presque d'apnée. Et c'est des moments, je trouve, qui permettent de quitter le climat d'hystérie, de clinquant du film. Et voilà, je trouve ce mélange d'anxiogène et de solaire, c'est vraiment l'image du film. Et donc cette scène, évidemment, très 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 emblématique, où le personnage écarte l'écran, effectivement, c'est à l'image du film, hein, qui joue vraiment sur ces deux tableaux là. Et donc voilà, pour dire que c'est un film serré, mais un film qui respire aussi, et que je trouve le film assez cohérent dans ses défauts. Voilà.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est à l'image du sujet, et à l'image, à mon avis, de son réalisateur aussi. Mmh. Oui.
Bon, Guy, toi, cette fameuse scène qui nous a semblé complètement magique, t'as forcément déplu.
Sur Wonder Wall, ouais, je trouve ça fort kitsch, mais bon, un peu à l'image quelque part du film en fait. Et moi, je t'admets que j'y suis allé avec des pieds de plomb, parce que Tom à la ferme, que j'avais vu précédemment, m'avait un peu laissé à quai, et j'avais trouvé ça hystérique, vraiment, Tom à la ferme. Et j'avais entendu ici dans les critiques précédentes que le film tendait vers l'hystérisme aussi. Mm-hmm. Et de fait, j'y suis allé un peu à reculons. Et en fait, c'est vrai que je suis rentré un peu difficilement dedans, parce qu'au départ, je trouvais que le personnage de la mère qui chique de manière complètement ostentatoire, je me dis, ok, on est dans une démonstration qui me. Voilà, où je me dis, oh là là, je sens que ça va être très très démonstratif, et je suis pas certain d'avoir envie de voir ça. Et puis au final, bah, tu te laisses emporter quelque part, parce qu'il y a vraiment effectivement des fulgurances. C'est très très difficile à nier que dans ce film il y a d'excellentes idées et qu'il y a une intensité qui est quand même très très impressionnante. Après, moi j'ai parfois l'impression que Dolan il réussit des scènes incroyables et puis il en rate d'autres. Et ce qui est lié peut-être à un excès d'impulsivité, ce qui est à mon avis normal vu son âge et vu cette espèce de côté débordant de créativité qu'il a, et donc c'est tout à fait logique. Je prends par exemple la scène effectivement du karaoké, qui est une scène assez fabuleuse, la manière dont Kevin, Steve, Kevin, c'est vraiment pour dire, voilà, c'est vraiment pour dire, Steve prend le micro et interprète cette chanson, là aussi un peu kitsch.
Vive au play.
Ah oui,
voilà. mais Andrea Bocelli, tout à fait, et qui l'interprète de manière tout à fait sincère et qui a une vraie sincérité. Mais en revanche, la manière dont justement les jeunes qui sont dans le karaoké essayent de l'emmerder et de lui casser la tête quelque part, je trouve que ça c'est moins réussi, c'est raté, et il y a ce côté à chaque fois un peu chaque fois on va parfois un petit peu trop loin, et c'est parfois difficile à trouver une vraie cohérence dans tout ça. Mais après, ça donne vraiment c'est quelque part un beau film avec de bonnes idées, et qui est un peu hystérique clairement, et qui est parfois difficile, et on attend la mère qui dit toujours Steve et mon gars, enfin
mon gars.
À un moment, c'est un peu étouffant, mais au final j'en suis sorti mitigé, vraiment, mais en me disant, je suis mitigé, mais ça va sûrement décanter, et je vais me dire demain matin ce que j'en ai pensé, et je pense que j'en garde un chouette souvenir. Donc
c'est la force, enfin moi je trouve que c'est la force du film et de son cinéma aussi, de nous faire accepter des partis pris comme ça too much, quoi. Ouais. Parce que je crois qu'on l'a tous dit en fait au début du film, dans ces films, moi, j'ai toujours du mal à rentrer dans ces films. Il y a un côté un peu
désagréable.
Oui, c'est ça, too much dès le début. Ouais, et puis une fois qu'on est pris dans le film, je trouve qu'il y a toujours une énergie et une vitalité dans ces films, et un souffle comme ça qui fait qu'en fait t'acceptes plein de choses, et ça c'est quand même fort.
Et puis je sais que c'est complètement bateau et que lui-même ne veut pas qu'on le juge sur ce plan-là, mais il n'a que 25 ans, c'est complètement dingue, quoi. Et quand on écoute son discours sur les radios françaises, il a une espèce de degré de maîtrise de la langue et de sa pensée que moi j'espère avoir un jour dans ma vie, dans 50 ans, quoi.
Entendons-nous bien, ça reste du high level cinéma, quoi. On n'est pas mais tu sens, je trouve, 25 ans, justement, tu sens cette espèce de débauche de testostérone, il y a une espèce de... Voilà, il y a tellement de choses, il y a plein de choses à dire, plein de choses à exprimer, et tant mieux, j'espère que le puits va pas s'épuiser, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, puis ça fait que ça fait 5 films quand même qui fait en renouvelant chaque fois des idées, du style, et donc moi je lui souhaite vraiment de continuer comme ça. Là, prochainement, il va faire un film américain, enfin...
Oui,
aux États-Unis, manifestement.
Ah ouais.
Et qui devrait lui prendre plus de temps, c'est
peut-être
ce qu'il a annoncé
à
en tout cas.
Peut-être Kate Winslet.
Ouais, peut-être.
Qui est son actrice préférée, peut-être. C'est la rumeur.
Mais il disait dans une interview, je trouvais ça assez beau ce qu'on parle. Oui, il y a un côté clairement ultra mélodrame parfois dans ce qu'il fait. Il disait. Je vais toujours réaliser une scène comme si elle était dans Titanic, quoi. C'est quand même.
Apparemment, c'est son film préféré.
Oui, ouais, bah, c'est quand même assez fort. Et c'est vrai que. Voilà, il y a ce côté un peu, et je pense aussi à cette scène, en fait, il y a quelques grandes scènes musicales, on l'a dit, hein, et aussi cette idée qui est quand même belle, juste expliquer ça, c'est que, effectivement, les chansons, bah, donc c'est du Céline Dion, c'est du Oasis, c'est du Andrea Bocelli, parce que, en fait, toutes les chansons, et ça c'est assez cohérent, proviennent d'une compile, en fait, que le père de Steve leur a faite avant de mourir, et qui est un peu une compile des grossies des années 90, voilà, et toutes ces musiques arrivent à un moment donné, et le film progresse comme ça, à coup de grandes scènes musicales. Il y a quand même cette scène sur un morceau de Céline Dion,
qui
est assez, assez hypnotique, enfin, vraiment, elle est assez, assez fascinante.
On peut quand même... la cuisine, elle danse.
On peut toujours se demander s'il n'y a pas une espèce de prise au piège émotionnelle du spectateur avec la musique, le truc et tout. Et en même temps, on est forcé de constater qu'il y a quelque chose qui passe et ça marche, quoi. Mmh. Enfin, je trouve. On est toujours un peu à la limite, mais...
Mais c'est ça, c'est exactement... Par exemple, on parlait de Wonderwall, cette scène où... Je sais pas, il est sur son skateboard pendant Wonderwall, ouais, c'est bien ça. Donc... On te met Wonderwall, comme ça, de manière... t'es un peu obligé d'être...
Oui.
Tu te sens obligé d'être avec, tu te sens obligé de la beauté. C'est un beau moment, tu sens que c'est un beau moment, et donc on te dit, regardez, ça c'est un beau moment, quand même.
Ah, il se fait que quand même, c'est un bon moment.
Il se fait quand même que c'est un bon moment, donc...
C'est justement un moment de liberté. En plus, comme il ouvre, il explose le cadre. Je trouve que nous-mêmes, on est libre de pas adhérer et de regarder ailleurs. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'être prise en otage par cette scène.
Moi, je pense que c'est quelqu'un qui appuie ses effets, mais qui est conscient de ça et qui trouve une légitimité quelque part. Il a gagné cette légitimité en le faisant bien. Donc.
Oui, parce qu'il a, il a. Je pense que c'est sincère ce goût pour l'outrance.
Ouais,
ce goût même pour le kitsch, comme tu disais avant, voir son mauvais goût, je sais pas si son film préféré c'est Titanic, je veux pas dire que c'est du mauvais goût, mais enfin son côté un peu à aimer super fort des trucs très populaires comme ça en musique ou en cinéma sont tellement, enfin ça m'apparaît tellement sincère que c'est difficile de ne pas adhérer à ça.
Ouais, tout à fait, mais dans ces interviews t'as l'impression que c'est pas vraiment une posture et que
c'est ça, ouais.
Et que voilà, ça, et il a pas que ça comme goût, hein, je pense qu'il a il a un panel qui est plus diversifié, mais il aime aussi les trucs pop et les trucs pas un peu beauf, mais voilà, qu'on a tous aimé et qu'on est tous un peu honteux d'aimer, mais
façon plaisir coupable.
Il est hyper influencé en général. Il disait par exemple pour son travail, il a fait un vrai travail esthétique sur le film. Il disait que ce qu'il avait vraiment hyper influencé, c'était le travail de Nan Goldin, la photographe américaine qui a fait la balade de la dépendance sexuelle, et voilà ce côté un peu ultra sexué, un peu crado, outré, un peu outrancier. Même si c'est, je trouve ce qu'il fait dans le film est beaucoup moins trash et beaucoup moins fort que Nan Goldin, il y a quand même quelque chose de saisissant. Enfin, il faut aller voir ces images. On voit effectivement la parenté et tout le travail qui a pu être fait. C'est assez impressionnant de nouveau, quoi.
Merci pour ce moment d'érudition, Isaline. Combien, non mais vraiment, combien sur 10 pour ce film? Moi je lui mets 7 sur 10. Et toi, Guy?
Et tu places la barre, pour... tu l'as adoré, non, a priori? Ah non, tu l'as pas adoré, non.
Oui,
oh, 7
si,
aussi, c'est un bon 7 moi quand même,
ouais,
un très bon 7.
Ouais, tendant vers le 8.
Ouais. Oui, moi c'est un 7 aussi, oui.
Et toi?
Un 8, oui.
C'est un 8. Dans les pages de Focus, notre excellent voisin de bureau, Jean-François Pleguer, a beaucoup aimé le film et nous dit au sujet de Xavier Dolan... S'il évolue là en terrain familier, l'auteur-réalisateur n'a jamais semblé autant maîtriser son sujet. Entre sens aiguisé du tempo et audace bluffante de sa mise en scène, jusqu'à toucher la magie pure, le temps d'une échappée belle où il se joue du cadre au son de Wonderwall de Oasis. Le roman de la semaine, il s'appelle Price, il est signé Steve Tezich, le Steve Tezich, celui que la francophonie a découvert il y a 2 ans avec le monstrueux, monumental et indispensable roman Carou. C'est un auteur serbo-américain qui a connu un certain succès aux États-Unis. Il a notamment reçu un Oscar pour le scénario du film Breaking Away. Quelqu'un l'a vu ici? Non, non plus.
Carreau
a été publié en 98, il est mort en 96. Le livre a été republié 3 fois. Beaucoup de gens qui comptent aux Amériques en parlent comme d'une œuvre majeure, mais il n'avait jamais traversé l'océan jusqu'à nous. Jusqu'à ce qu'une très perspicace maison d'édition bordelaise, Monsieur Toussaint Louverture, décide de le balancer urbi et orbi. Elle en a vendu 120 000 exemplaires, rien qu'en France, qui est quand même absolument inattendu et énorme. Aujourd'hui, elle publie la traduction française du tout premier roman de Steve Tezic, Price, paru en 82. C'est le seul autre livre qu'il avait dans ses tiroirs. Et c'est encore une fois un grand livre, un récit d'initiation universelle dont on sort essoré et aussi très seul. De prime abord, Price n'a pas grand-chose à voir avec Carreau. C'est pas un livre qui table autant sur la férocité. Et pourtant, sa lucidité est tout aussi cruelle. On y assiste au naufrage des illusions d'un adolescent de 17 ans, Daniel Price, qui entre dans l'âge adulte comme on entre à la boucherie, côté arrière-boutique. Son père se meurt, la fille qu'il aime ne l'aime peut-être pas. Isaline, je sais que tu as adoré ce livre et que si ce n'était pas si vulgaire, tu lui aurais mis 10 sur 10 dans les pages de Focus.
C'est vulgaire de mettre un 10.
Je ne sais pas, on ne le fait pas. Hein,
on le fait peu, on le fait peu, oui. Bah ouais, je crois que j'ai mis un 9 mm-hmm. sur 10, mais voilà, je le confirme quelques semaines après. Mais tu as très bien resitué le phénomène un peu, hein, Steve Tezic. Mm-hmm. C'est vrai que voilà, c'est quelqu'un dont on n'avait jamais entendu parler auparavant. Il a eu une vie courte et très chargée, ce qui finalement lui a laissé le temps d'écrire seulement 2 romans, ce qu'on peut vraiment, vraiment regretter, parce que Carreau, ça a été effectivement un choc. Moi, je l'ai découvert complètement par surprise en 2012. Et voilà, cette espèce de farce tragicomique d'un cynisme, mais complètement hallucinant, l'histoire d'un spin doctor d'Hollywood, revenu tout, ultra script, machiavélique, salement déprimé, et qui, ouais, c'est ça, donc qui revoyait des scripts, mm-hmm, pour Hollywood. Moi, je me rappelle de la scène de fin, qui est sans doute une des plus belles scènes de fin que j'ai jamais lues. C'est vraiment une scène qui était remuante à pleurer. Ouais. Vraiment, c'était assez fou. Donc, on se dit bon, évidemment, l'annonce de la sortie de Price, il y avait un grand enjeu derrière. C'est à la fois une nouvelle très excitante parce qu'on sait qu'on l'attendait, enfin, on savait qu'il n'y avait que deux livres. C'est aussi un peu terrible parce qu'il y a toujours quelque chose d'un peu morbide à lire le dernier livre d'un auteur mort, et, ouais, parce qu'on sait qu'il n'y en aura pas d'autres. Et puis bien sûr, il y avait aussi la possibilité d'être déçu par Price. Mm-hmm. Alors on l'annonçait comme l'autre grand roman de Steve Tezic, mais...
Andy Tezic ?
Je sais, ouais, pas, en sais fait. Tezic. Enfin,
bon, comme on veut.
Guy, on dit comment ?
Tezic, on dit.
Merci.
Guy ne l'a pas lu.
Alors évidemment, je n'ai pas du tout été déçue, bien au contraire. Non seulement je trouve que le livre est un grand livre, c'est vraiment un grand roman américain qui m'a beaucoup fait penser par exemple à un très très beau livre, un très très grand livre de Richard Ford qui s'appelle Une saison ardente, mm-hmm, qui est un livre assez peu connu de Richard Ford mais qui pour moi est vraiment un des tout grands. Ça m'a fait aussi penser un peu à la désillusion des livres de Richard Yates, La fenêtre panoramique et tout ça.
Un peu de Philip Roth aussi, tu ne lui as pas...
Un peu de Philip Roth, oui, c'est vrai, pourquoi pas. Mais... voilà, avec un côté peut-être un peu plus naïf dans celui-ci, mmh, et qui à la fois du coup en fait un livre encore plus bouleversant, et c'est bouleversant aussi parce qu'on assiste tout simplement à la naissance d'un écrivain. Tu l'as dit, c'est son premier roman. Il l'a écrit pendant près de 10 ans. Il disait vraiment, Price, c'est vraiment le livre que j'ai toujours porté en moi, voilà. Et d'où c'est un premier roman, on assiste à la genèse d'un univers, d'un romancier, et en même temps on a des difficultés à croire qu'il s'agit d'un premier roman, vrai, tellement c'est vraiment une œuvre de maturité. Mature. Presque. Ouais, c'est vraiment très très étonnant, c'est un livre d'une très grande force. Alors que dire sur ce livre? Bah, c'est pour moi un livre vraiment extraordinaire sur ce que c'est d'être adolescent dans l'Amérique des années 60, ce que c'est d'habiter une petite banlieue industrielle complètement morne et polluée avec pour toute perspective les cheminées de l'usine locale, sur ce que c'est que de n'avoir à 17 ans aucune porte de sortie, mmh, c'est-à-dire aucun autre modèle de réussite par exemple que son prof de lutte, voilà, qu'est-ce que c'est de vivre quand on n'a pas la moindre idée de ce que c'est que ne serait-ce qu'embrasser une fille à 17 ans. C'est-à-dire que voilà, Daniel est complètement englué. Il a toutes les chances finalement de se contenter de devenir ouvrier, de reproduire la vie complètement cafardeuse et un peu cauchemardesque de ses parents. Et Tessie, je le dis très bien, il dit finalement la pire des frayeurs pour Daniel et pour ses deux amis, c'est que les autres parviennent à se sortir de là. Il dit finalement, si nous nous serrions les coudes, à vrai dire, c'est autant pour nous soutenir mutuellement que pour ne laisser à aucun d'entre nous une chance de prendre, mm-hmm, son envol, ce qui est quand même assez terrible. Alors bien sûr, il y a cette histoire d'amour entre Daniel et Rachel, ou plutôt l'histoire que Daniel attend de Rachel, mais qu'elle lui donne très peu. Rachel, c'est vraiment cette fille compliquée, changeante, dont Daniel tente vraiment désespérément de trouver la brèche par laquelle percer son univers. Et c'est une relation qui, d'emblée, est marquée d'un saut très inquiétant, assez dramatique, presque fatal, on sent ça assez vite. Et on dit parfois, des grands livres qui contiennent un peu toute la structure de leur récit dans la scène d'ouverture. Mm-hmm. Je trouve que la scène d'ouverture de Price est vraiment assez emblématique à cet égard.
Où il perd un combat de lutte.
Voilà, il est pressenti pour être devenir un peu le champion de l'état de lutte. On sait la fascination des Américains pour la lutte. Et voilà, il contemple un peu de manière presque documentaire sa propre défaite, en fait. C'est-à-dire qu'il sent la défaite arriver, il ne va rien faire pour remporter ce titre qui pourrait justement être cette porte de sortie. Et puis il y a cette phrase complètement édifiante et très programmatique qui revient sans cesse de son prof de lutte qui lui dit, dès qu'il le croise dans les couloirs pendant les semaines qui suivent, faut croire que ça ne devait pas arriver. Faut croire que ça ne devait pas arriver, qui est complètement à l'image du livre, en fait. On sent bien que tout va être en fait sous cet angle-là. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut m'interrompre.
Non, mais je t'interromps volontiers. Pas de problème. Non, mais ce qui est assez intéressant dans cette scène d'ouverture qui est assez incroyable, cette scène de lutte, c'est qu'il le dit plus tard dans le roman, en fait, s'il perd, il se rend compte que c'est pour ne pas s'élever plus haut que son père. Mm-hmm. Et finalement, quelque part, il accepte, en perdant son match de lutte, il se résigne à la forme de médiocrité que son père a connue. Et je trouve que c'est vraiment un grand roman de rapport au père, en fait. Il voit son père jusque dans la lune, qui le hante et qui le ramène toujours à une sorte de... Son père, c'est un peu le boulet qu'il a attaché au pied, quoi. Et il y a cette figure de père castrateur qui revient toujours. Et cette phrase que tu disais, donc, ça aurait...
Faut croire que ça ne devrait pas arriver.
Lui, il raccroche toujours ça à l'idée du destin. En fait, il a envie de justifier le fait que qu'il ne lui arrive rien de bien par le fait qu'il existe un destin, une sorte de force supérieure. Et je trouve qu'en fait, c'est un roman super moderne parce qu'en fait, ça interroge la question du sens. Et c'est un roman qui renvoie justement à une sorte d'aporie de sens comme ça, très forte.
Mais c'est vrai que la relation père-fils était déjà au cœur de Carreau, d'ailleurs, de manière complètement cruelle et machiavélique. Et ici, on sait que Steve Tessich a une relation très, très conflictuelle et très déceptive avec son propre père. Et ici, on est vraiment dans quelque chose d'un affrontement oedipien assez, d'une cruauté sans nom. Hein. C'est vraiment le fils qui veut prendre la place du père et qui, en même temps, Nico, tu me dis très bien, c'est très ambigu. Hein. Il ne veut pas non plus s'élever plus.
On se demande même si par moment, il ne fantasme pas certaines scènes avec son père. Enfin, quand son père malade revient à la maison, il est atteint d'un cancer, il lui fait subir vraiment des sortes de scènes de torture terribles comme ça, et on se demande si ces scènes sont bien réelles.
Ou si elles sont fantasmées, parce qu'elles sont d'une cruauté, d'une puissance incroyable. Il y a quelque chose de terriblement malsain qui s'instaure dans leur relation à eux, qui est presque plus intéressant que ce qui se passe avec Rachel. C'est vrai que ce père, je trouve, c'est un personnage assez incroyable, très très inquiétant, une sorte de soleil noir comme ça qui plane sur qui atteint de démence un peu son père.
Une trahison réelle ou fantasmée, enfin plutôt réelle, l'a complètement rendu fou, lui monte à la tête, ça, et devient exactement. Le seul prisme par lequel il appréhende la réalité.
Et il fait planer, du coup, je trouve, un oracle très très sombre de nouveau sur la vie de son propre fils qui le refuse. Alors, ce qui est très très intéressant dans le livre, évidemment, c'est qu'on va forcément pas tout dévoiler, mais il y a cette autre figure de père, le père de Rachel, puisque évidemment, Chicago est donc la petite ville où ça se passe, c'est tellement petit qu'en gros le roman ne fait qu'aller d'une maison à l'autre, de la maison de Daniel à celle de Rachel, et on a un peu la surimpression des deux foyers aussi, et des deux figures de père et des deux triangles relationnels, puisqu'à chaque fois on est dans une relation à trois. Il y a Daniel, son père et sa mère d'un côté, et de l'autre Rachel, son père et Daniel, et c'était aussi la figure triangulaire au centre de Carreau, avec tout ce que ça implique. Il y a aussi cette manière dans les deux cas de renvoyer érotisme et mort, sexe et maladie, dos à dos. Il y a quelque chose de très très puissant aussi là-dedans, je trouve. Voilà, avec aussi quelque chose de très inquiétant et qui souligne pareil une forme de cruauté, c'est cette ligne très légèrement surnaturelle du texte. Hein. On a tout à coup cette journée où on est en plein hiver, en plein été. Et puis les divinations aussi que la mère fait dans le marc de café de son fils le matin. Il y a comme ça une ligne très très légèrement surnaturelle et un peu inquiétante qui de nouveau souligne la noirceur qui va arriver.
Ce qui est dingue, c'est qu'il amène ça, je trouve, avec une écriture très simple, en fait. Une écriture pas du tout, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans l'ostentation, il n'y a pas de sorte de petite affaîtrie chichiteuse, regardez comme j'écris bien, on n'est pas du tout là-dedans. Il a une écriture très, très, très pure, très, très simple, et il atteint une sorte de vérité, de
profondeur. Mais il se met à la hauteur de son héros dans sa narration, quoi. Oui, il est assez immature.
Oui, complètement, mais il pénètre sa psyché d'une manière tellement, tellement forte que c'est dingue. On peut isoler des phrases, et c'est des phrases toutes simples comme ça, mais dans l'ensemble, ça produit quelque chose d'assez dingue, en fait.
Oui, je pense que c'est très, très autobiographique aussi. Hein.
Oui, ben comme Caro, quelque part. D'ailleurs, si on devait expliquer par quelle porte d'entrée on devait pénétrer l'œuvre de Steve Tezic, est-ce qu'on commencerait par Caro ou par Price?
Bah, idéalement, on commencerait par Price. Je pense que ça pourrait même être lu comme une sorte de préquel à Caro, en fait. Parfois, on a l'impression de pouvoir dire de Daniel qu'il est peut-être le futur Caro. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose là qui se brise au niveau de son adolescence. Et même si, et ça, de nouveau, on ne va pas trop en parler, mais le final du livre en soi est assez lumineux. Hein. On assiste quand même à la naissance d'une porte de sortie, alors littérale ou pas.
Un peu peut-être fantasmée aussi.
Mais je pense que ça pourrait très bien mener à quelque chose de l'ordre d'une évolution vers Caro, pourquoi pas.
C'est très cryptique, à mon avis, tout ce qu'on vient de dire pour l'auditeur. Excusez-moi.
Mais il faut lire les deux, tout simplement.
Bien sûr.
Moi, n'ayant pas lu Caro, par exemple, je trouve que Price en soi, effectivement, c'est génial comme port d'entrée.
Et toi, Guy, qu'est-ce que tu peux nous en dire de tout ça?
Mais moi, je ne connaissais pas cette personne, au point que quand j'ai vu le bouquin, il y avait marqué Price, et je pensais que Price était le nom de l'écrivain, et que le nouveau grand roman de Steve Tezic, c'était le nom du roman. Voilà, donc c'est pour tout ça pour dire. Voilà, tu voulais m'humilier, donc je pense que c'est réglé. Voilà, la question est. On peut passer à autre chose maintenant. Voilà.
Merci. 9 sur 10, comme Isaline. Tu restes sur ton 9 ou tu.
Oui, pour moi, c'est vraiment un des moments forts de la rentrée, quand même.
Et toi, Nico?
Moi, ne lisant pratiquement que des livres avec des images, je crois que je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir imposé, en fait, cette lecture. Je mettrais 9,9.
Ah, c'est chouette, ça.
Waouh.
So I have something to tell you.
Oh my God. I have to tell him.
No.
Yes.
Allie's crazy.
Tell me what?
Dad is a woman.
Does mom know?
Of course I know that. You think I'm a dummy?
It's his thing. It's his little private kink. Everyone has one. Right, Rabbi?
I guess everyone has, one or two. The reason that I feel
so strong. Transparent, on va le dire à la française. C'est la nouvelle et première série du grand diable Amazon, de la SVOD comme Netflix, donc de la vidéo à la demande par abonnement, et bientôt comme Telenet chez nous, qui apparemment prépare une série flamande. C'est-à-dire qu'Amazon a balancé d'un coup toute une saison de Transparent que le public a pu consommer à la découpe ou en binge watching, de vilains mots évidemment quand on parle de culture. Transparent est écrit par Jill Soloway. Qui est Jill Soloway? C'est un peu la Rolls des scénaristes à Hollywood. Elle a travaillé entre autres choses sur United States of Tara et Six Feet Under. Je trouve qu'on y retrouve pas mal un peu l'ambiance de States of Tara. Elle raconte ici le coming out d'un père de famille sexagénaire qui se laisse enfin aller à être celui qu'il est depuis toujours, à savoir une femme. Et on assiste aux effets de sa confession sur son ex-femme et ses trois grands enfants. Ça aurait pu faire très 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 cage aux folles, ça aurait pu être traité par Xavier Dolan, et en fait c'est très très sobre, c'est tout le contraire, c'est pas une comédie, même si on ne s'interdit pas le sourire de temps en temps. C'est une série en fait qui, je trouve, ressemble à la vie, qui évolue comme elle en permanence sur le fil de rasoir. Parfois c'est drôle, parfois pas, parfois c'est long, parfois c'est lent, parfois ça va vite. 10 épisodes d'une demi-heure ont été mis en ligne, je les ai engloutis en une demi-journée, l'œil à peu près perpétuellement humide. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très beau, très libre en fait. Guy, tu as regardé la série?
Oui, absolument. Oui, je partage globalement ton avis. Effectivement, c'est à l'antithèse de ce que fait Dolan, donc c'est beaucoup plus, je vais pas dire
c'est pas du tout une série queer en fait.
Non, c'est pas une question de subtilité, c'est beaucoup plus, on est dans l'understatement en fait, hein, vraiment. C'est calme, ça avance doucement. doucettement, mais c'est assez bien vu, c'est assez juste dans beaucoup de situations. En revanche, je trouve que c'est très très arty film indépendant américain.
Il y a un petit côté snob. Hein,
oh là là, ça se ressent fort. J'ai
ne vu que dans les maisons, les vêtements, les conversations.
Il y a un côté où t'as l'impression d'avoir vu parce que finalement, c'est 10 épisodes qui pourraient faire un long film. On a déjà suffisamment parlé de ce genre de série là, mais c'est effectivement les séries qui reprennent à chaque fois l'épisode suivant là où ils l'avaient laissé, quasi à la même minute quelque part où l'épisode précédent était. Si ce n'est là, on a un moment où on a une espèce de long flashback.
Ouais.
Qui revient 20 ans plus tôt, mais sinon globalement ça pourrait être un long film indépendant américain
très long, alors parce que ça a déjà été renouvelé pour une deuxième saison.
Oui, complètement, mais je pense que maintenant
trop long.
Oui, ouais, ça fait forcément 5 heures, donc ouais. Mais d'ailleurs je pense que le président d'Amazon l'a dit, ou en tout cas un des ponts d'Amazon l'a dit en parlant du binge watching, justement en disant bah voilà, regardez-le comme si c'était un long film, ce qui est globalement
c'est ce que j'ai fait.
Faut savoir donc Amazon avait déjà produit un certain nombre de pilotes.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est une manière assez différente d'appréhender la fiction.
Oui, parce que le public devait voter, c'est ça, Guy, pour le pilote
tout
préféré.
Tout à fait. Ils avaient fait aussi un pilote qui s'appelait Alpha. Je sais plus exactement. Il y avait Alpha dans le titre. Je me rappelle plus. J'avais vu ça. C'était sur le Sénat. C'était sur 4 colocataires.
Avec John Goodman.
Qui était pas mauvais, mais qui était plutôt faible. Et là, effectivement, donc, on s'était dit à l'époque, bon, bah voilà, Amazon se lance effectivement comme Netflix, comme le front proche probablement un jour ou l'autre, tous les grands acteurs d'Internet, finalement, en disant, bah voilà, tant qu'à diffuser sur nos plateformes de la fiction, autant la faire nous-mêmes, ça va nous rapporter plus d'argent. Et donc, c'est ce que fait Amazon. Donc voilà, Amazon a proposé un certain nombre de pilotes en disant aux gens, voilà, votez pour ou votez contre, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et de ce fait transparent, dont le pilote avait été plébiscité, a reçu la chance d'avoir 9 épisodes.
Est-ce que c'est pas étonnant que le public ait plébiscité ce... Parce que c'est pas super catchy, en fait.
C'est exactement ce que je me suis dit. Alors, il y a des choses qui sont un peu cocasses, c'est que, par exemple, entre le pilote et les acteurs changent. Entre le pilote et le deuxième épisode, où on reprend la même scène, il y a des acteurs qui changent, en fait. Parce que...
Oui, dans la même scène.
Dans la même scène.
Ouais, les mêmes fringues.
Ah, ouais, ça, tout à fait. Donc, ça, c'est assez étonnant, mais forcément, parce que ça a pris du temps pour accepter, finalement, d'en faire une saison. Ça, c'est assez... Alors, maintenant, évidemment, ça pose la question de la manière dont sont élus, finalement, les fictions qui vont passer, quelque part. Alors, on peut se dire, bah, finalement, on n'est juste pas hypocrite en demandant simplement aux gens ce qu'ils ont envie de voir et on leur donne. Et ouais. Quelque part, parce que c'est un peu ce que beaucoup d'artistes font, finalement, c'est donner à leur public ce que les gens attendent. Mm-hmm. Ici, on le dit clairement et on le fait comme ça. Donc, c'est peut-être une manière d'être franc. Et effectivement, ça pose la question de, tiens, c'est marrant, finalement, les gens, ils n'ont pas forcément envie de voir la merde, quoi, parce que c'était plutôt arty, plutôt branché, plutôt ouais. Snob et voilà, donc ça le fait finalement, je sais pas ce que t'en penses.
Moi je suis d'accord sur tout ce que t'as dit jusqu'à la dernière phrase, c'est-à-dire que moi je trouve la série assez médiocre, donc je trouve que justement les gens ont plébiscité un peu de la merde, mais enfin bon,
vas-y.
On peut en discuter.
Médiocre, mais carrément.
Je rejoins ce que tu disais en disant que la série a tout du petit film indé américain calibré pour Sundance, avec la petite musique indie.
Exactement, c'est ça.
Les personnages cool dans tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, qui sont là en même temps pour faire rire, en même temps pour émouvoir, en même temps pour être un petit peu dur, tout ça à la fois. J'ai l'impression de voir une sorte de Sue-Girls qui se passe à Los Angeles avec des personnages super nombrilistes, autocentrés.
Ça, c'est vrai, mais
c'est le
principe, d'accord.
Mais... Non, c'est pas ça, c'est l'objet de l'intrigue, oui. C'est que ces enfants sont justement autocentrés.
Selfish. Ouais. Mais
c'est des enfants autocentrés qui vont devoir se confronter au changement radical de leur père. Donc quelque part ils sont autocentrés, ça peut être crispant, mais
c'est un parti pris.
Mais ouais, il est vraiment crispant. C'est aussi, ouais, je trouve un sous Six Feet Under, hein, parce que tu le disais, c'est Nana qui a travaillé sur Six Feet Under. Il y a la question de la famille, de l'identité sexuelle, et le titre de la série en fait est déjà un peu couillon, je trouve, puisque il y a ce côté transparent, donc il est transparent par rapport à son identité sexuelle, il s'exhibe publiquement dans ce qu'il est réellement. Transparent, donc le parent trans. Mais je trouve qu'en fait la série est juste transparente, sans vouloir faire un gros jeu de mots, roulement de tambour. Parce que c'est vraiment une série sur le vide. Enfin, tu dis que c'est une série emprise sur la vie, mais c'est une série qui parle de rien, qui dit rien.
Bah ouais, bah c'est la vie, non ?
Qui multiplie des flashbacks où on apprend rien. Ils servent à rien, ces flashbacks. Jusqu'à cet épisode 8, qui est un flashback complet. Et moi, j'ai eu le sentiment de perdre mon temps, mais de manière foudroyante en regardant ce truc. Il se passe strictement rien.
Ouais, tu sauves même pas les acteurs.
Si, c'est bien joué, mais ça me pose un peu problème. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand une série télé est un peu alternative, un peu indé, avec des acteurs qui savent un peu jouer ailleurs que, enfin, différemment que dans un vaudeville façon Francis Perrin et Jacques Balutin où on déclame son texte, directement, c'est un chef-d'œuvre de la télévision. Enfin, je trouve j'ai l'impression que l'âge d'or des années 2000 des séries télé ont eu un peu une sorte d'effet pervers, c'est que maintenant on s'émerveille sur n'importe quelle couillonnade qui est un peu crédible.
Ça fait du bien aussi dans ce qu'il y a de foisonnant.
C'est sobre et en même temps, enfin, je sais pas, ils ont tous des problèmes d'identité sexuelle, tous au même moment. Enfin, évidemment, j'imagine que le coming out du père.
Non, parce que ça se fait avant, hein, finalement. Quand tu vois que le fil.
Ça se fait juste avant.
Oui, mais t'as raison, c'est le timing. C'est le timing qui fait. Effectivement, ils sont tous en problème sexuel. Donc, il y a l'une des sœurs qui a un garçon manqué et qui aime bien l'ultra-virilité. Puis, t'as l'autre sœur qui devient lesbienne, enfin, ou qui redevient lesbienne.
Qui déjà,
puis, t'as le frère qui a été dépucelé par une espèce de.
Je me mets à la place d'Isaline qui n'a pas vu la série. J'ai l'impression que ça ne doit pas lui sembler très sobre, tout ça, justement. Enfin, je trouve que tout est hyper tiré par les cheveux. Et c'est juste un traitement qui n'est pas sobre, qui est désespérément plat, je trouve.
Moi, je les trouve complètement conformes à la réalité.
Oui, mais quel intérêt ? Est-ce qu'on peut dire qu'une série est bonne parce que les scènes de sexe sont conformes à la réalité ?
Non,
je trouve que ça manque un peu. Ça manque un peu de.
Mais là, je trouve que je partage en partie tes réserves sur certains aspects. Effectivement, je trouve que c'est assez plat à certains égards, et j'ai l'impression d'avoir des redites dedans, des choses que j'ai déjà vues et des trucs plic-ploc qui ont été assemblés pour faire une série. Ça n'empêche que dans le paysage actuel des séries, c'est quand même toujours rafraîchissant d'avoir des choses qui sont pas couillonnes quoi, si tu veux, où on fait pas un cop show avec un flic et son copain qui se font des blagues et où tu vois tout arriver à l'avance. Ici, je trouve qu'il y a quand même un nuancier dans le jeu. Jeffrey Tambor, qui joue le père qu'on a connu dans Arrested Development,
qui est très bien
dans son personnage, et il lui donne quand même pas mal de nuances. Il y a quelques très belles scènes quand même malgré tout dans la série. Voilà, je trouve que ça tire plutôt quand même dans le bon sens que dans le mauvais, vraiment, personnellement. Je pense que ça tire plutôt dans le bon sens que dans le mauvais. On pourrait parler, je pense à Gotham en parlant du flic, du jeune flic et du vieux flic, où on a quand même pas mal de séries qui prennent les gens un peu pour des cons.
Oui, mais justement, est-ce que c'est ça le maître étalon, de dire on est dans autre chose que les choses minables qui sont pour le moment en télé, doit dire du coup c'est une bonne série parce qu'on n'est pas là-dedans, enfin.
Non, je comprends ce que tu veux dire.
Tout me semble tellement cliché. Le générique, c'est vraiment. Le générique, il me file de l'urticaire.
Mais enfin, Nico.
C'est des vieilles images rétro, vintage, nostalgiques.
Oui, d'un caméscope des années 90.
Avec une petite musique au piano, machin et tout ça. Et en fait, on est à fond dans l'esthétique Instagram. C'est une série Instagram, quoi. C'est une série avec un petit voile, une belle lumière de Los Angeles, et un petit voile nostalgique sur le machin. Et j'ai l'impression, moi, de regarder du Pinterest qui défile super vite, quoi. Des choses de goût sur Pinterest.
J'aime bien la formule, mais c'est pas parce que c'est agaçant que ça en fait quelque chose d'inutile ou
de mauvais. Je pense pas que ce soit mauvais. Je pense pas que ce soit. Effectivement, j'ai l'impression que c'est du sous Six Feet Under, que j'ai d'ailleurs revu. Je me suis retapé les 5 saisons de Six Feet Under il y a pas si longtemps.
Il y en a 6, n'oublie pas la 6e.
Il y a pas de 6e saison.
Non, il y en a que 5.
Il y en a que 5, bien sûr.
Enfin, pardon, excusez-moi.
Piège.
On coupera ce cassage manqué au montage. Non, il y a 5 saisons à Six Feet Under, et de fait, c'est une étude des mœurs humaines qui est assez exceptionnel. Mais c'est ici on est dans un truc plic-ploc, puis il faut laisser un peu la chance au produit. On verra bien sur la deuxième saison. Moi, je pense que voilà, ça reste c'est pas désagréable, c'est pas trop long, c'est comme un film que tu aurais rapidement oublié, en fait, quelque part.
Oui,
mais
pour moi c'est beaucoup d'arguments pour dire que c'est quand même pas terrible.
Non, je sais, mais je suis partagé sur la série, mais je suis pas aussi intransigeant que toi vraiment sur ce coup-là, parce que tu reproches à cette série quelque part des choses que chez Dolan par exemple tu tu plébiscitais, si tu veux. Tu vois, ce côté, la petite musique indie, etc. Tout ça, ça fait très cliché.
Mais ça fait sens chez lui. Il y a un propos.
Oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire.
Il y a un regard, quoi. Ici, c'est tellement mal filmé. Enfin, je veux dire, on est tout le temps en train de faire des trucs avec une belle lumière, un peu nostalgique et tout ça. Mais il y a une scène vraiment qui est complètement débile dans l'épisode 2 où il y a Ali qui est censé être attaqué par des oies. C'est ça, des canards, des oies, je sais plus quoi. Et ils n'ont tellement pas su faire la scène avec des canards qui l'attaquent qu'à un moment, c'est filmé en point de vue subjectif des oies, puis en point de vue subjectif d'Ali, et elle est censée avoir peur. Enfin, c'est un truc, c'est... j'aurais honte, le gars qui a réalisé ça, j'ai honte pour lui. Quoi. Vraiment,
sans le regard des spécialistes.
C'est la série qui est snob, je te jure. Mais elle est bien, non, Gabby Hoffman qui joue Ali justement attaqué par
Ali. Oui, qu'on avait vu dans Louis notamment. Mmh. Mais les acteurs sont très bien.
Les acteurs sont très bien, les dialogues sont parfois bien tapés quand même, malgré tout. Je pense qu'effectivement, je te trouve un peu dur, mais voilà. Enfin, moi, je trouve ça plutôt plaisant, sans être bouleversant vraiment.
Bon, bah, moi, je trouve ça plutôt bouleversant en fait. Donc je lui mets 8 sur 10.
Moi je lui mets un bon 6.
Ah oui, et toi Nico?
Ça va sembler gratuit, mais oui, je vais mettre 3. C'est pas gratuit.
D'accord, The Transparent a pioché sur les meilleurs internets. On va dire un mot de Tomorrow's Modern Boxes. C'est le disque surprise de Thom Yorke qu'on ne présente plus, sinon on passe pour des ploucs. Mais bon, sait-on jamais qu'une partie de notre public a eu un AVC récemment. Thom Yorke, c'est tout simplement la voix et l'âme de Radiohead et de Atoms for Peace aussi.
Je trouve que toutes les blagues où il y a AVC dedans, c'est toujours sont drôle, de bonnes blagues.
Tu devrais faire un show sur l'AVC.
Je parle beaucoup d'AVC dans mes... Ouais, continue.
C'est vrai, mais je viendrai bientôt te voir. Mais on peut faire un peu de promo le 22 octobre. Ah mais non, c'est déjà complet ton spectacle le 22 octobre.
Voilà, mais c'est pas très important.
Enfin, les gens peuvent t'attendre à la porte, ils ont envie de t'embrasser ou de te casser la gueule.
Je refais mon spectacle sur le trottoir.
Bon. Thom Yorke est arrivé l'air de rien sur internet où on peut le télécharger pour seulement 6$ via la plateforme de peer-to-peer BitTorrent. On a quand même connu plus glam comme lancement, mais il paraît que c'est, je cite, une expérience afin de voir si le grand public peut comprendre les limites du système. Le système. Moi j'ai pas grand chose de pertinent à dire sur ces 8 morceaux. J'ai l'impression que Thom Yorke fait un peu depuis quelques années toujours le même long, très long morceau neurasthénique.
C'est clair.
J'ai rien contre la neurasthénie, mais là, je suis pas vraiment...
Tu préfères les AVC.
c'est plus drôle. Je suis même pas vraiment parvenue à m'intéresser fondamentalement à Tomorrow Modern Boxes. Je me disais, on va faire le podcast, allez, je dois écouter cet album, et je me forçais à l'écouter, mais sans joie. Je vais te laisser la parole encore une fois, Guy, parce que je sais que Thom Yorke est un peu un dieu, pas un peu, beaucoup un dieu pour toi. Alors,
je sais, je sais aussi que c'est très dans l'air du temps, dans la branchitude généralisée de dire du mal de Radiohead et de Thom Yorke.
Je pense.
Si, ça fait quelques années maintenant qu'il ne faut plus dire du bien de Radiohead sous peine de passer pour un plouc. Mais.
Il y a peut-être des raisons.
Il y a peut-être des raisons. Je dois bien reconnaître qu'avec tout l'amour que je porte à Thom Yorke et ce qu'il a pu faire par le passé, cet album, il est un peu. Quelconque et sans grand intérêt. Vraiment, t'as l'impression qu'il fait encore des trucs pour s'amuser de son côté, ou je sais pas, il a plus grand chose à raconter, ou il a plus grand chose en tout cas à apporter à l'innovation culturelle. Mais quelque part, Radiohead a fait des choses tellement fortes au tournant du siècle que voilà, maintenant.
C'est définitif, quoi.
Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de redites. Il y a eu encore quelques beaux albums de Radiohead dans les années 2000. In Rainbows, je trouvais que c'était vraiment un bel album.
Ouais.
Ensuite, bon, The Kings of Limbs était beaucoup plus faible avec l'un ou l'autre, avec l'une ou l'autre perle dessus. Et ce que Thom Yorke fait ici, effectivement, c'est l'espèce de petite trip électronique. Un peu lancinant, un peu plaintif,
épileptique.
Ouais, voilà, mais toute la beauté de ce qu'on a pu avoir, en fait, elle est rattrapée ici par l'espèce de côté systématique de ce qu'il fait, en fait. Et là, on se demande si vraiment il a pas envie de simplement reprendre un jour une guitare et de faire une mélodie de faire une chanson, en fait. Et on attend quelque part, moi, comme fan de Radiohead, j'attends un jour qui replonge là-dessus, en fait, simplement, de nous refaire une chanson. Ils en ont fait quelques-unes sur les albums précédents, mais là il n'y a pas vraiment de chanson, quoi, sur cet album-ci. Enfin, je suppose que tu penses la même chose.
Des ruptures, de temps en temps, mais il y en a dans les morceaux aussi.
Ouais, justement, j'ai l'impression que c'est un peu le syndrome du popeux qui veut faire de l'électronica et qui, en fait, se perd un peu. J'ai l'impression que lui, il a l'impression que rien que le fait de laisser tomber sa guitare pour chipoter des machines, pour lui, c'est aventureux, alors qu'il fait un truc très conventionnel et très conformiste.
Ça l'a été avec Kid A et Amnesiac,
Bien sûr.
À l'époque où on n'était pas, où il y a peu de groupes rock qui osaient déposer les guitares et se mettre à l'électro, ce qu'ils ont fait, ce qui était assez novateur. Ensuite, après, le problème, c'est qu'ils sont, lui en tout cas, s'est un peu enfermé dans ce créneau-là, quoi.
Parce qu'ici, ils revendiquent un peu de l'électronica des années 90, en fait, enfin, des trucs comme Motech, Aphex Twin, voire Boards of Canada. Enfin, c'est des trucs qui ont été faits déjà il y a très longtemps en mieux. Et il arrive avec un truc un peu d'électronica de salon, comme ça, qui fait très. Pas que pour les novices, je pense pour les connaisseurs aussi, c'est un peu du papier peint sonore. Enfin, ça fait encore formule, mais.
Je trouve qu'il y a peut-être deux, trois morceaux qui ont un petit quelque chose qui touche et effectivement le reste et te passe d'une oreille va vers l'autre et puis s'écrase contre le mur, quoi.
Et alors le mode, je trouve que ça rejoint aussi cette idée d'avoir un mode de diffusion, donc via BitTorrent, où il a l'impression de pervertir le système de l'intérieur,
en fait.
Alors qu'en fait maintenant tout le monde fait ça j'ai l'impression que
c'est un peu
pour attirer l'attention plus qu'autre chose.
Je crois que c'est 20.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Isaline, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cet album ? Il t'a intéressé ou pas ?
Il ne m'a pas du tout intéressé, mais je ne me sens pas très pertinente pour en parler parce que, disons que mon histoire avec Radiohead s'est terminée il y a bien longtemps. Je crois que vraiment, et pourtant j'ai vraiment eu ma grande époque Radiohead. Je pense on pourrait tous dire ici que, enfin, je pense que tout le monde qui le veut ou non a une histoire avec Radiohead. Et voilà, ce n'est pas très intéressant de faire un tour de table très intime ici, mais...
Non, mais c'est vrai.
T'étais où la première fois que t'as entendu OK Computer?
Mais je peux quand même confier que sans doute qu'il est OK Computer, c'était deux des albums qui ont le plus tourné sur ma chaîne IFI, que j'avais reçue pour mes 14 ans.
Pour ta communion,
oui.
Ah non.
Et voilà, et sans doute que le concert que j'ai vu de Radiohead à Werther, ça a été un des premiers grands concerts, qui m'a donné beaucoup d'émotions, et vraiment, du coup... Je sais pas, j'ai l'impression qu'après il y a eu un tournant et qu'ils se sont engagés dans quelque chose qui tout à coup pour moi n'a plus collé avec ce que je vivais ou à ma curiosité, enfin voilà, fin d'une époque comme on dit. Et donc là j'écoute l'album de Thom Yorke et je me sens dans un sentiment très bizarre, qui est un peu ce sentiment de reconnaître quelque chose de familier, donc la voix évidemment de Thom Yorke, c'est assez incroyablement reconnaissable, et puis en même temps quelque chose de très étrange qui m'évoque plus rien ou rien de ce que j'ai pu aimer, en tout cas qui provoque presque de l'appréhension, du malaise, en fait, de mon côté. C'est une voix qui m'a émue, mais là, il n'y a plus rien dans ce qu'il fait aujourd'hui. Espèce de côté un peu psalmodique, robotique, glacé, avec des rythmes un peu malades, un peu glacés, comme ça. Pour moi, c'est tous les ingrédients qui font que c'est très morne, c'est très ennuyeux, vraiment. Je pense que je l'ai écouté deux fois. Alors, j'ai lu quelque part que c'est un album qui donnait, à partir de la cinquième ou de la sixième écoute, il fallait vraiment... Voilà,
ce qui a toujours été le cas chez Radiohead, hein, par contre.
Du coup, mais je vais pas essayer parce que vraiment, c'est pareil, Myriam, j'ai pris ça comme un devoir de l'écouter. C'est presque l'impression, si vous voulez, que c'est une musique qui s'avale d'elle-même. Hein. Ça veut dire que c'est une musique pour moi qui reprend exactement ce qu'elle vient de donner, comme une impression de constante de rembobinage, comme ça, de garder, vraiment pas du tout apporter d'émotion, de générosité. Et c'est pas du tout pour paraître un peu réac. Enfin, je sais pas, par exemple, l'album de Damon Albarn qu'il a fait très, très récemment, Video Robots, moi j'ai trouvé ça incroyable, je l'écoute encore, c'est vraiment quelque chose pour moi qui... Je trouve que là, il se réinvente de manière assez géniale, ce qui est ce qui n'est pas le cas du tout ici pour moi, et qui, voilà, c'est vraiment un album que je vais oublier. J'ai rien à oublier, en fait. Il l'a déjà repris, ce qu'il avait donné, enfin, quelque part, voilà. Donc,
Oui, bah, alors sur 10, moi, je lui mets rien parce que je ne l'ai pas assez écouté. Je ne sais pas ce que tu en penses, Isani.
Mais non, alors par contre, ce que j'ai lu quand même, que je ne comprends pas, peut-être vous pouvez m'expliquer, mais Thom Yorke, qui est quand même en guerre contre Spotify, donc propose ce modèle de diffusion pour tester, comme tu disais, un nouveau modèle et reprendre le contrôle sur Internet. Mais par contre, j'ai lu que sur le site du Monde, les responsables de BitTorrent avaient comptabilisé les téléchargements. Donc en une semaine, il y a 1,1 million de téléchargements des fichiers numériques. Mais au final, ça se fait sans que BitTorrent puisse distinguer les téléchargements payants des gratuits. Donc c'est complètement absurde. Ah ouais. Okay. C'est complètement ironique.
Alors, surtout, BitTorrent à la base, c'est vraiment
un
nid à pirates, quoi. C'est un vrai nid à pirates.
Mais donc, au final, on ne sait pas du tout si les gens effectivement sont prêts à payer. C'est une opération ratée ou
je n'ai pas compris. Enfin, moi non plus.
Moi, j'ai pas très très bien compris le sens du truc non plus, mais.
Mais si on, si on peut pas déterminer qui a été prêt à débourser ou pas, alors au final, je vais autant mettre directement sur un.
Pour moi, c'est juste une opération pour se faire remarquer, quoi. Le sens du machin, la cohérence, le discours anti-système, entre guillemets, ne tient pas du tout la route.
Mais c'est-à-dire là, on n'aura même pas de chiffres, donc voilà. Enfin, ça marche bien, mais c'est peut-être tout simplement des gens qui ont téléchargé comme d'habitude. Enfin.
Oui, c'est ça.
Enfin, ça me semble très, très ironique, tout ça. Peut-être que je n'ai pas compris les nuances.
Faudrait qu'on invite Thom.
if you're listening to the show...
Ou en tout cas, peut-être Laurent Hubrecht pourrait nous éclairer davantage.
C'est vrai. C'est vrai. On lui demandera la prochaine fois.
Mais moi, je t'aime toujours, Thom, hein, comme ça, tu sais.
Ouais,
je suis juste un peu...
Tu lui donnes quoi comme bulletin à Thom?
5.
Oui, 4.
Et toi, Isani?
Oui, 3, je sais pas.
Oh, c'est triste cette semaine.
Mais c'est un peu triste. Hein. Non, il y a quand même Pride.
C'est l'automne, c'est l'automne. C'est vrai.
Rapidement, avant de clôturer cette émission, un détour par nos derniers coups de cœur. Le mien, c'est un livre, c'est un roman qui est paru chez On Lit, la très dynamique petite maison d'édition numérique belge. Il faut savoir qu'ils impriment aussi désormais du papier, mais en quantité limitée. Le livre s'appelle « À vivre couché ». Je ne sais pas si tu l'as lu, Isaline.
Non, je suis curieuse.
C'est un premier roman, son auteur s'appelle Pauline Hillier. Pauline Hillier, c'est qui? C'est une Française, c'est une fémène.
Oui, c'est une fémène.
Ouais. Elle a été emprisonnée l'an dernier en Tunisie après avoir manifesté nue pour réclamer la libération d'une militante tunisienne. Et son premier roman ne parle pas du tout de ça. Franchement, on serait bien en peine de déterminer que c'est un roman d'une fémène. C'est de la pure fiction, complètement délirante. C'est un road trip initiatique qui lorgne du côté transgenre de la force. Ah, c'est un peu le thème de la semaine, le transgenre. Hein. Avec un petit peu une héroïne à la Carou qui observe avec une distance assez jubilatoire toutes les dingueries qui lui tombent dessus ou qu'elle provoque elle-même. C'est impossible à résumer, c'est complètement impitchable, mais c'est assez génial. C'est très, très, très impressionnant. Elle a beaucoup de style, elle n'a que 27 ans et c'est déjà un vrai, vrai, vrai écrivain. Moi, ça suscite absolument tout mon respect. Voilà, Isaline, ton coup de cœur.
Je suis très, très curieuse de découvrir cet écrivain. Non, mais moi, je vais vous parler d'un écrivain qui est un peu plus connu, pour le coup, de Haruki Murakami, son dernier livre. Alors, il vient évidemment de rater le prix Nobel, hein, pas sans le savoir, mais il sort quand même un nouveau livre. Et ce livre s'appelle « L'incolore Tsukurutazaki et ses années de pèlerinage », ce qui est déjà un bon résumé du livre en soi. C'est un livre qui vient quand même après le raz-de-marée de la trilogie de Murakami, hein, Q84, qui a été quand même un des plus gros succès de librairie jamais enregistré au Japon. Et là, il revient, un peu par réaction, j'imagine, à un roman unique, plus sobre, beaucoup moins ramifié. Alors, l'intrigue du livre est très simple. Elle remonte la piste d'un événement traumatique. Hein. Tsukuru Tazaki faisait adolescent partie d'un groupe de 5 amis inséparables. Alors, le hasard voulait que tous possèdent un nom de couleur dans leur patronyme, voilà, c'est un peu compliqué, mais donc en japonais, j'imagine que ça a du sens. Et donc, ils y avaient trouvé, là, des surnoms tout trouvés, donc voilà, ils s'appelaient Rouge, Bleu, Noir, Blanche, et puis il y avait Tsukuru qui, lui, n'a pas de couleur dans son patronyme, donc il avait cette obsession d'être celui du groupe qui n'avait pas de couleur, pas de personnalité, un peu insipide. Et c'est une crainte qui va se trouver confirmée parce que à un moment donné, ses amis vont lui fermer la porte de manière complètement incompréhensible et très radicale. Et c'est un choc qui va quand même un peu réécrire sa destinée. Il attendra quand même l'approche de ses 40 ans pour revenir un peu sur cet événement traumatique et faire une sorte de pèlerinage qui l'amènera jusqu'en Finlande pour comprendre en fait les raisons de ce rejet très très violent. Alors ça pose un livre qui pose plein de questions assez importantes, hein. Quel rôle on joue dans un groupe, quelle trace on imprime sur la vie de ses amis, comment est-ce que les autres nous perçoivent finalement intimement. Et je trouve que malgré un style qui est toujours très très sobre, hein, Murakami c'est quand même pas un très grand styliste, hein, on a l'impression d'une prose un peu presque hygiéniste à certains moments, mais ce qu'il développe ici très très intéressant, c'est un rapport au temps assez fascinant, c'est-à-dire qu'il surimprime trois époques et il nous donne une impression de simultanéité ou en tout cas de flux des consciences comme ça de manière très, très fluide. Et voilà, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé, mais aussi tout ce qui aurait pu se passer si les circonstances avaient été différentes, ce qui est quand même une des grandes questions de la vie, finalement. Et on a vraiment cette impression de coexistence des réalités, des niveaux de conscience, et aussi avec un grand rôle du rêve, hein, comme toujours chez Murakami, qui lui permet des envolées, comme ça, très lyriques, très, très érotiques aussi. Voilà, c'est pas un roman aussi fort, sans doute, que d'autres de Murakami, mais j'ai quand même trouvé que c'était un très beau texte et qui charriait de nouveau une mélancolie voilà, assez déchirante comme seul peut l'écrire Murakami sans doute. Ça s'appelle L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage et c'est chez Belfond. Voilà, traduit par Hélène Morita pour être bien complète.
Merci pour tout ça. Nico, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a enflammé dernièrement ?
Plein de choses, mais j'ai choisi une bande dessinée qui n'en est pas vraiment une, qui s'appelle Le verre à moitié vide, qui est édité par les éditions suisses Atrabil, et qui est l'œuvre d'une liégeoise, en fait, qui s'appelle Aurélie William Levaux.
Ah ouais !
Tu connais ?
Ouais, ouais, c'est très chouette ce qu'elle fait.
Voilà. Ouais. Ben, donc Liège, qui est cette ville un peu d'artistes autoproclamés. Hein, à Liège, tout le monde est artiste, photographe ou DJ, et pourtant, il règne une assez grande médiocrité culturelle. Aurélie William Levaux,
elle est... On ne peut pas critiquer les liégeois, hein. C'est comme les Gilles de Binche, il y a des choses que... Enfin,
je suis à moitié liégeois, donc j'estime que j'ai une certaine légitimité. Aurélie William Levaux, elle a un talent assez dingue, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est quelqu'un qui mélange le dessin et la broderie, qui est plus dans l'illustration que dans la bande dessinée, et qui travaille vraiment des choses très très fortes. Donc le livre ici, qui s'appelle Le verre à moitié vide, c'est une sorte de succession de tableaux, donc c'est à une page, une image, et à une image, une phrase. Et on peut rester devant une page une dizaine de minutes.
Il y a un récit ?
Alors, il y a une sorte de fil rouge, pardon, qui serait en l'occurrence l'insatisfaction, d'où le titre, Le verre à moitié vide ou Le verre à moitié plein. Et ça brasse toute une série de choses, la famille, la sexualité féminine, les angoisses existentielles, qu'est-ce que c'est d'être une femme, qu'est-ce que c'est d'être un homme. Il y a une planche où elle dit quelque chose du style « Oui, toi, gros ours mal léché, tu as le droit de craquer. » Et on voit une sorte de gros ours mal léché, moustachu, qui pleure. C'est vraiment très, très fort, visuellement, et elle a le sens de la formule, comme ça. C'est quelque chose de très libre, de pas du tout bien-pensant, c'est pas du tout mignon, ou ce genre de gros mots. C'est un album assez difficile à décrire. On est entre l'illustration et la bande dessinée. C'est vraiment un ovni. Et donc, ça s'appelle Le verre à moitié vide aux éditions Atrabil. Et c'est signé Aurélie William Levaux.
Et pourquoi c'est paru chez un éditeur suisse ? Tu as une idée de ça ?
Aucune idée.
Aucune.
Je sais que son précédent album, elle a déjà été édité par plusieurs éditeurs différents, mais son précédent album était déjà sorti chez Atrabil.
Ok.
Ouais, c'est une maison d'édition qui est connue aussi pour son ouverture d'esprit, on va dire. Enfin, je veux dire, c'est un album qui pourrait pas sortir chez un éditeur classique de type Dargaud, Lombard, Dupuis, parce qu'on est au-delà de la BD de papa, quoi. C'est vraiment plus un objet visuel qu'autre chose.
Merci Nico. Et toi Guy ?
Le dernier truc qui m'a vraiment frappé. Non, en fait, en ce moment, je me tape tous des vieux trucs, Six Feet Under, des Dude et tout. Je relis Céline et des choses comme ça. Enfin, je fais le titre qui relit Céline. Céline, mais. Non, alors, il y a eu un documentaire dimanche sur Yves Mourouzi. Qui était fantastique. Je vous explique vite fait. Alors, le type est incroyable dans les années 80. Donc, son journal de 13h, c'était vraiment la superstar du journal de 13h. Et il pouvait à peu près faire tout ce qu'il voulait. En tout cas, il s'arrogeait le droit de faire tout exactement ce qu'il avait envie de faire jusqu'au moment où il a dépassé, quand TF1 s'est privatisé, il a dépassé complètement les limites. Où il faisait des pubs à l'antenne pendant son journal. Il faisait des pubs sur des cassettes audio, sur des trucs comme ça. Où il présentait. Il faisait des pubs, il faisait de la pub, quoi. Mmh. Et puis un jour, il a fait son journal en direct du Phuket avec Johnny Hallyday, qui était avec sa femme. Ils ont présenté un défilé de Johnny pendant le journal. Et là, t'as Mourouzi qui dit, ah ouais, de toute façon, puisque Johnny a sa femme, il n'y a pas de raison que moi, j'ai pas la mienne. Et donc, t'as la femme de Mourouzi qui a débarqué sur ses genoux. Journal de 13h. Le type présente le journal de 13h. Il faut s'imaginer ça aujourd'hui avec François Desbrigottes qui ramène sa femme sur le plateau et il galoche sa femme devant tout le monde. Et bon, il s'est fait virer le jour suivant. Il s'est fait virer le soir même. Mais comme il avait très bonne relation avec François Mitterrand, il a appelé Mitterrand pour demander à Mitterrand de faire une interview en scred le lendemain de l'Élysée. Donc ils ont fait le journal le lendemain de l'Élysée sans que la direction de TF1 le sache. Et donc t'as une interview complètement improvisée à l'Élysée avec Mitterrand qui est là, qui se demande un peu ce qu'il fout là, mais qui est là pour légitimer Mourouzi. Regardez-le si vous avez l'occasion de le rattraper. C'est Un jour un destin de Mourouzi. C'est toujours des assez bons documentaires.
Et on les retrouve parfois sur YouTube.
Voilà. Le film que j'ai aimé, c'est Elle l'adore, de Jeanne.
Tu es donc la personne qui a aimé Elle l'adore.
J'ai vraiment bien aimé ce film. Je trouve ça très chouette.
Il y a Guy et il y a Hugues Daillé aussi.
Ah oui, ouais. Moi j'en avais lu que du Pic et Pendre. Pas du tout.
Ah, tu l'as vu toi?
Non, du tout.
Non, c'est bien. Tu l'as vu non plus?
Non, mais vas-y, raconte-nous.
C'est vite fait, donc ça raconte l'histoire d'une fan d'un espèce de chanteur populaire qui est interprété par Laurent Lafitte. La femme, c'est Sandrine Kiberlain, donc elle est complètement fan. Et un jour, Laurent Lafitte tue accidentellement sa compagne et donc va aller demander l'aide à Sandrine Kiberlain pour faire disparaître le corps. Mais comme il s'avère que Sandrine Kiberlain et mythomane, donc ça va compliquer évidemment pas mal la suite de l'histoire. Et c'est assez juste en fait. C'est pas fantastique.
C'est pas vraiment une comédie.
Non, c'est un film plutôt dramatique. Mais ça reprend à rebrousse-poil un tas de clichés en fait sur le chanteur, sur sa vie en fait, qui a une vie assez morne, sur elle qui est une fan assez hardcore mais qui n'est pas dingue. Il y a plein de choses. Il y a quelques scènes qui sont assez fantastiques. Voilà. Je trouve que c'est un petit film vraiment plutôt bien foutu quoi. Voilà, moi je vous conseille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Déjà, j'ai pris beaucoup de temps, sorry.
Mais non, c'était très bien. On a voyagé dans une comédie avec Sandrine Kiberlain et chez Yves Mourouzi. C'était une bonne idée.
Merci Guy.
Voilà, c'était le mot de la fin. On a terminé, c'est tout. On se retrouve dans 2 semaines, j'espère, pour ausculter le pire et le meilleur de ce que nous pond la pop culture. Merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, si vous aimez cette émission, abonnez-vous sur iTunes. Elle vous arrivera automatiquement par magie. Focus Store, c'est son nom, hein, pour les distraits. À très vite. Cordialement, bien à vous. Merci beaucoup l'équipe. À bientôt.
Salut Myriam.
Salut.